Amis auditeurs, bienvenue dans votre nouvelle édition de votre émission « À chaque femme son histoire » sur les antennes de Radio Rosséry. Comme vous le savez, « À chaque femme son histoire » est une émission à travers laquelle les femmes racontent leur histoire. Ces histoires peuvent être tristes ou joyeuses. Aujourd'hui, nous allons ensemble écouter les histoires de femmes qui ont réussi à s'imposer dans la société. Nous évoquerons les success stories de ces braves femmes qui sont aujourd'hui à la tête des organisations associatives et non gouvernementales. Elles ont marqué la société civile de leur empreinte. Elles ont eu à traverser des moments extrêmement difficiles en tant que femmes pour pouvoir se hisser au sommet de leur bataille pour la promotion des droits de la gente féminine. La Journée internationale des droits des femmes pour l'année 2022 est placée sous le thème « L'égalité aujourd'hui pour un avenir durable ». Cette égalité ne vise pas le rétablissement des rapports de force physique entre les hommes et les femmes. Les femmes réclament juste l'égalité de chance, d'accès au travail, à la réussite, à l'égalité d'accès aux opportunités diverses. Quoi qu'il arrive, l'homme reste et sera toujours le chef de famille, celui-là qui est censé protéger sa famille et l'encadrer. Pour réussir à bien gérer leurs responsabilités, ces hommes aussi ont besoin des femmes capables, éduquées, épanouies et intelligentes pour leur venir en aide. Et c'est pour toutes ces raisons qu'elles doivent être soutenues dès la base. Nous allons prendre notre ponctuation musicale de l'artiste Fatih Salma qui chante Djangirde.
Elle dit non au mariage précoce.
Effectivement, Fatih Salma a raison. Les filles aussi ont droit à l'éducation, car tout commence par là. Pour être des bonnes femmes leaders, il faut d'abord aller à l'école. Comme annoncé au début de l'émission, nous vous ferons part des histoires des femmes qui sont à la tête des organisations et associations et qui ont pu surmonter les vicissitudes et les discriminations basées sur le genre. Elles ont aujourd'hui des histoires à raconter qui pourraient inspirer de nombreuses filles ici et ailleurs. De jeunes filles qui caressent le rêve de jouer les premiers rôles dans la société. Nous commençons par Madame Marthe Wando. C'est elle la fondatrice de l'ONG Aldepa, une organisation de la société civile camerounaise qui œuvre entre autres dans le soutien des enfants pour un meilleur respect de leurs droits et en faveur des femmes. Madame Marthe Wando, puisqu'il s'agit d'elle, a récemment reçu une distinction internationale, le prix Nobel Alternatif 2021. Une fierté pour toutes les femmes de la région de l'extrême nord et celle du Cameroun. Elle nous parlera sur ses nobles batailles pour la cause humaine et comment elle a réussi à imposer sa voix de femme.
Je suis Marthe Wando, coordinatrice générale de l'ONG Aldepa. Notre ONG travaille sur la promotion des droits des enfants et des femmes, et puis la prévention des violences, la promotion de l'éducation de la jeune fille, la lutte contre les pratiques culturelles néfastes comme le mariage d'enfants, mais aussi la prise en charge des victimes et la réinsertion, que ce soit scolaire ou professionnelle. Bon, en tant que fille de la région de l'extrême nord, ayant aussi grandi dans la région, je suis partie des expériences personnelles à l'école avec mes camarades, mais aussi au sein de la communauté. Mais je voyais aussi que le temps est passé, mais rien n'a changé, et que les filles faisaient toujours face aux problèmes de culture, aux problèmes d'éducation néfastes qui affectaient assez leur circuit scolaire, leur éducation, mais aussi leur épanouissement de manière générale. Et je me suis dit, pourquoi ne pas donner aussi une contribution pour qu'il y ait une conscientisation de la part des parents, un encouragement pour les enfants, mais aussi qu'il y ait une évolution ou des changements au niveau du cadre même d'encadrement des enfants de manière générale et surtout des filles, mais aussi comment est-ce que les femmes de la région qui en majorité n'ont pas été à l'école, parce qu'on se situe là quand même dans les années 90, comment est-ce qu'elles peuvent se rattraper en termes d'une autre éducation qui n'est plus l'éducation formelle où elles vont repartir à la CIL et autres, mais comment est-ce qu'elles peuvent rattraper ce qu'elles n'ont pas pu avoir dans le passé pour qu'elles puissent aussi être autonomisées sur le plan social mais aussi sur le plan économique. Comme je dis toujours, il n'y a pas une seule fille qui grandit dans le Grand Nord arrivée au moins à 10 ans ou à 15 ans, n'a jamais subi une seule forme de violence basée sur le genre. Donc moi, je ne peux pas faire l'exception, puisque moi, j'ai grandi, comme je vous dis, dans la région de l'extrême nord, et les problèmes que j'ai vécu, c'était aussi des problèmes de pourquoi les filles vont à l'école, pourquoi vos parents vous payent les études, alors que avec l'école que vous allez faire, vous n'aurez même pas de mari. C'est la femme, la place de la femme, c'est bien, c'est au foyer et autres. Mais aussi, le harcèlement aussi, le harcèlement sexuel, c'est ce que toutes les filles qui sont passées, par exemple, par le lycée subissent, puisque les enseignants se disent, bon, s'il y a quelques filles au lycée, elles peuvent aussi, ils peuvent aussi s'en servir. Bon, j'ai des enfants, j'ai expérimenté le mariage aussi. Et puis, femme au foyer, travailleuse, professionnelle, avec des enfants, j'ai expérimenté aussi tout ça. Pour moi, ce n'est jamais facile parce que les rôles ne sont pas différents, les rôles ne sont pas les mêmes. Déjà, une femme qui va au travail, elle continue avec son rôle traditionnel qui lui est attribué au niveau de ménage, c'est-à-dire s'il n'y a pas la nourriture, on pense que c'est sa responsabilité. Si la maison n'est pas nettoyée, on pense que c'est sa responsabilité. Les enfants ne sont pas entretenus, ainsi de suite. Donc, on ne voit pas la responsabilité de l'homme, même si après, vous partez tous au travail. Et au travail, il n'y a pas de mesures spécifiques pour l'aménagement des conditions de travail pour les femmes qui sont mariées avec les enfants. Ça veut dire qu'on attend votre rendement à 100%. Et quand vous rentrez, vous devez aussi faire face, encore une fois, à ces tâches traditionnelles qui vous sont attribuées en tant que femme. Et donc, ce n'est pas du tout facile. Ça, je peux dire que c'est le pire des calvaires des femmes. La difficulté majeure, c'était déjà que, je suis une femme. Deux, je ne travaillais pas à la fonction publique. Je n'ai jamais été fonctionnaire. Et donc, il fallait faire face à toutes les charges de ce travail qu'on voulait faire. Donc, sans un soutien, sans être soutenue, mais aussi faire face à une situation où les gens ne comprennent même pas pourquoi des personnes peuvent s'engager sur le champ du développement. Il n'y en avait pas assez. Donc, c'est tous ces problèmes que nous avons eus, mais aussi le problème de financement pour... les activités, ça, ce n'était pas aussi facile. C'est vrai que ce n'est pas lié au fait que je sois une femme. Toutes les organisations, au début, ont toujours des problèmes de financement, de structuration et autres. Ce que moi, je vais dire aux parents, c'est déjà de faire des efforts pour qu'à la maison, aussi bien les garçons que les filles se partagent les tâches. Pourquoi? Parce que quand on fait tout à la maison, le matin, une fille exécute toutes les tâches, c'est-à-dire elle fait la vaisselle, elle fait le ménage, ainsi de suite, pendant que le garçon, lui, quand il se réveille, ce n'est que parti à l'école. Quand la fille arrive à l'école, pendant que l'enseignant est en train de donner les cours, son corps est déjà fatigué. Elle a déjà mené une activité physique, elle arrive, elle est au repos en classe, et donc elle est fatiguée. La seule chose, c'est de dormir. Si elle ne dort pas, elle est surchargée dans la tête parce que physiquement, elle est fatiguée. En plus, elle doit accumuler les cours et ça ne peut pas lui permettre de suivre les cours comme il se doit au même niveau que son camarade garçon qui est venu directement à l'école. Quand elle va rentrer, il faut aussi qu'on aménage un temps pour lui permettre aussi non seulement de se reposer, mais aussi de pouvoir avoir accès aux loisirs. Parce qu'il ne faut pas que dès qu'elle arrive à la maison, bon, tu prépares, après tu laves les assiettes, après tu portes ton petit frère. Non. Pendant que le garçon, lui, il peut sortir, il faut que les parents soient conscients de cela, que cette division, c'est une situation qui frustre les filles, mais aussi qui ne leur permet pas d'étudier normalement. Après, elle aura fait tout ça le soir, au moment où elle va prendre le cahier, elle va dormir sur le cahier. Elle est fatiguée, elle va juste laisser le cahier pour que demain le cycle recommence. Donc, il faut être une super intelligente et engagée pour réussir dans un tel contexte. Donc, moi, ce que je dirais aux parents, c'est déjà de faire des efforts pour que ça soit partagé et que tout le monde puisse mettre la main à la pâte.
Nous l'avons tout suivi, rien n'a pas été facile, surtout parce qu'elle était une femme. Mais cela ne l'a pas empêchée de poursuivre ses rêves et atteindre ses objectifs. Pour elle, le combat continue et les résultats sont de plus en plus visibles et récompensés. Le lundi 22 mars 2022, elle a reçu des insignes de chevalier de la Légion d'honneur par son Excellence Monsieur l'Ambassadeur de France au Cameroun. La cérémonie a eu lieu en présence du gouverneur de la région de l'extrême nord et des autorités administratives. Notre prochain modèle de femme est Madame Aïssa Doumara, la coordonnatrice de l'association de lutte contre les violences faites aux femmes, ALVF Extrême Nord. Elle nous raconte aussi son parcours comme femme leader d'une association.
Mmh. Notre nom, c'est Aïssa Doumarangatansou. Nous sommes de l'association de lutte contre les violences faites aux femmes Extrême Nord Cameroun. Et nous occupons le poste de présidente coordinatrice. Déjà, tout petit, on s'est aperçu que le traitement qu'on nous accordait en tant que filles était différent de celui de l'attention portée vers nos frères et notre frère. Et ça, ça nous a marqué dès ce moment-là. On ne peut pas dire exactement quand, mais nous étions très, très jeunes. Et au fur et à mesure qu'on grandissait, on se rendait compte vraiment de cette différence-là. Il y a même des anecdotes qui nous restent à l'esprit. Par exemple, je me souviens une fois avoir fait la cuisine. Et à ce moment-là, nous avions entre, je pense, 11, 10 ans. Et lorsque notre papa est rentré à la maison, la tante qui était avec nous, parce que nous étions des orphelins, était très heureuse d'annoncer ça à papa, que votre fille est déjà grande et qu'elle connaît même faire la cuisine. Et sa réponse nous a marqué et nous a presque déchiré le cœur. Ce qu'il a dit à la tante, c'était qu'elle sache bien préparer, c'est son mari qui sera bien heureux. Imaginez un enfant qui a à peine cet âge-là et qui se voit déjà projeté ou bien considéré comme n'appartenant pas à sa propre famille. Et ça, c'était quelques éléments, ça c'est des clichés, des petites choses qui se font et qui nous ramènent à la réalité et qui nous fait croire que nous ne sommes pas considérés à juste titre comme des membres à part entière de notre famille qu'on a toujours connue. Et plus tard, quand on a été un peu plus grande, on a été mariés et on devrait aller vivre dans une autre famille. Et là, il fallait encore apprendre à s'imposer, à développer l'estime de soi par soi-même. Et je pense que c'est depuis ce moment-là qu'on a pris conscience de notre différence et qu'on s'est résolu à tracer notre propre chemin. Et on n'a plus jamais fait marche arrière. Et on s'est vraiment appliqué à faire tout pour que nos droits soient respectés, pour avoir une place qui est la nôtre, pour nous imposer dans la vie. Et plus tard, on a fait la rencontre d'autres femmes qui avaient également les mêmes vécus, qui étaient passées par des expériences peut-être qui ressemblaient à la nôtre. Et ensemble, on s'est mise pour mettre sur pied notre organisation ici à Maroua. Il faut reconnaître que l'association que nous dirigeons est née à Yaoundé. Et une personne parmi celles qui étaient avec les autres, Madame Sike, bien entendu, est arrivée ici à Maroua avec le dépliant de l'organisation. Et quand elle nous a présenté le dépliant, on a tout de suite compris que ça, c'est quelque chose qui cadre avec nos convictions et avec ce que nous voulons faire de notre vie, ce que nous voulons faire pour les autres. Parce qu'on prenait de plus en plus conscience qu'il faut faire quelque chose pour que les autres filles, les autres femmes qui ne sont pas dans cette situation ne puissent pas vivre ça. Que les droits des femmes soient quelque chose de très naturel, que les femmes et les garçons, les filles et les garçons, les hommes et les femmes soient considérés comme des êtres humains à part entière et qu'ils soient respectés partout, dans la vie publique, dans la vie privée. Et à partir de ce dépliant dont nous avons élaboré toutes les stratégies, toutes les actions pour partir de ce moment-là jusqu'à ce que vous voyez actuellement, ce que nous sommes devenus. On ne va pas tout raconter parce que ça nous prendra des jours, des semaines, peut-être des mois pour pouvoir tout relater. Mais il y a des témoins vivants qui nous écoutent, il y a des personnes qui nous ont vu cheminer et qui peuvent compléter ce témoignage-là. Il faut dire qu'il y a l'expérience personnelle, mais on s'inspire aussi des écrits des recherches et de notre expérience, nous disons qu'il faut d'abord une prise de conscience individuelle. Hein, il faut que la personne, la femme ou la jeune fille qui veut se démarquer, qui veut faire, qui veut défendre les droits des autres, puisse d'abord prendre conscience de ses propres droits et qu'elle les défende déjà d'abord, parce qu'il faut commencer par ça. Une fois qu'on a fait cette prise de conscience individuelle, on peut donc penser à aller vers les autres pour pouvoir penser collectif, penser pour les autres. Toujours vouloir pour l'autre ce que vous voulez pour vous-même. Hein? Je ne sais pas si ça se comprend bien, mais il faudrait que vous ayez l'amour des autres, hein? que vous travaillez, pas parce que vous voulez avoir un gain, mais parce que vous ressentez une satisfaction personnelle. À ce moment-là, c'est déjà le déclenchement. Et en termes de d'idéologie féministe ou bien de réflexion féministe, ça s'appelle la prise de conscience individuelle pour aller vers le collectif. Et lorsque vous atteignez le collectif, vous pouvez donc vous mettre en association en étant certaine que chacune des membres de votre groupe a la même perception, a la même conviction et a la même vision, c'est-à-dire aider les autres en s'aidant soi-même. Parce que tant que vous n'avez pas pris conscience de votre vécu commun, de ce que chacune d'entre vous a traversé, vous ne pourriez pas avancer. Et l'autre chose que je pourrais rajouter, on ne peut pas donner à l'autre ce qu'on n'a pas. Donc il faut un certain minimum, hein, ce qu'on appelle les besoins de base, hein, les besoins pratiques. Il faut un certain minimum. Si vous n'avez pratiquement rien, et c'est la condition des femmes de manière générale, vous ne pouvez pas. Donc il faut travailler à ce que vous réalisez d'abord vos besoins pratiques. Une fois que vous les aurez, vous pouvez donc prétendre à parler de vos droits. Et toujours vous focaliser sur les droits. Parce que vos devoirs, il y aura quelqu'un qui va vous le rappeler. Parce qu'on ne rappelle pas ses devoirs à une personne. Hein, sauf peut-être un récalcitrant, mais d'office, de prime abord, vous saviez ce que vous devriez faire. Mais vos droits, il faut toujours les revendiquer. Il faut les connaître, il faut les réclamer. Sinon, ils seront toujours bafoués.
Il faut aussi rappeler, Madame Aïssa Doumara a reçu le prix pour la meilleure initiative en faveur des filles par le ministère de la Promotion de la Femme, le prix de la meilleure femme humanitaire et médiatrice pour la paix en Afrique centrale et le prix Simone Veil. C'est le courage et la détermination qui ont été la clé de sa réussite. Le siège de l'ALVF, baptisé Barkario et Simone Veil, a été inauguré par l'ambassadeur de France au Cameroun, en présence du gouverneur de la région et la représentante du ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille. C'était aussi une occasion pour Madame Doumara d'exprimer sa joie et sa profonde gratitude envers tous ceux qui l'ont soutenue et encouragée jusque-là. Écoutons un extrait de son discours lors de la cérémonie.
Je voudrais conclure mes propos en réitérant l'engagement de mon équipe et moi-même à faire des efforts nécessaires et continue pour garantir l'efficacité de notre système de protection socio-juridique et économique des femmes et des filles victimes survivantes de violences dans la région de l'Extrême Nord en particulier, le Cameroun, voire le monde entier. Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, je ne saurais terminer sans vous dire que Barkario et Simone Veil est un rêve accompli pour le bonheur de toutes les femmes de la région de l'Extrême Nord, parce que longtemps attendu par celle-ci. Transmettez une fois de plus toute notre gratitude à son Excellence, Monsieur Emmanuel Macron.
« Chers auditeurs, nous allons également avoir un témoignage de l'une des bénéficiaires des actions de l'ALVF. Elle s'est Vicenoa Sandra. Elle a été forcée au mariage à l'âge de 12 ans par ses parents. Heureusement pour elle, elle a eu sur son chemin l'association qui lui a permis de retrouver le sourire. Écoutons-la.
Mes parents ont voulu m'envoyer en mariage parce qu'ils ne pouvaient pas payer mes frères dans les scolarités. Là. Et ils m'ont envoyé en mariage. Et là-bas, ça n'a pas marché. Le monsieur était autoritaire. Il frappait trop. Il était bizarre. Il s'est saoulé. Et moi, j'ai décidé de rentrer à la maison. Et c'est comme ça que mes parents ne voulaient pas que je rentre. Mes parents m'ont dit que si je devais rentrer à la maison, et ils ne s'occuperont plus de moi. Ça m'a dérangé mentalement aussi parce que je voyais les gens de mon âge qui partaient à l'école et toi tu es à la maison, tu dis que non, tu es en train de t'occuper d'un vieux papa qui pourrait même être ton père. Aujourd'hui j'ai repris l'école et je me sens à l'aise. Et je me sens
sauvée.
ALVF m'a payé l'école et je les remercie quand même beaucoup.
Voilà, c'était tout pour son histoire. À travers son témoignage, on peut aussi apprendre que ces associations qui luttent pour les droits des filles et femmes font des merveilles et leurs combats sont reconnus et appréciés à l'échelle nationale et internationale. Écoutons son Excellence Christophe Guilou qui ne tarit pas d'éloges à l'endroit de Madame Aïssa Doumara et Madame Marthe Wando.
Je voulais vous dire également, habitants de la région, que vous avez Aïssa Doumara, mais vous n'avez pas que Aïssa Doumara. Vous avez des femmes d'une très grande qualité. J'ai eu la chance, l'honneur hier de décorer Marc Vandoux de la plus haute distinction française, la Légion d'honneur. Et donc aussi un tonnerre d'applaudissements. Allez plus fort. Elles sont exceptionnelles. Elles sont exceptionnelles. Et croyez-moi, hein, j'ai une longue carrière derrière moi, j'ai visité plein de pays, rencontré des milliers de personnes, mais là vous avez deux personnalités de niveau mondial, niveau mondial. Et leur combat est un combat exceptionnel de ténacité, vous en rendez pas compte vraiment parce que vous êtes dans le stress de la menace, de l'obscurantisme, et sachez qu'en prenant un peu de recul on se rend compte à quel point vous êtes courageuse.
On ne saurait terminer de valoriser et d'encourager ces illustres femmes sans avoir les appréciations professionnelles de leurs collaborateurs. Ils sont plus proches d'elles et nous livrent ici leur expérience de collaboration.
Je m'appelle Tébé Refrida, je suis chargée de suivi des projets à ALVF depuis 2019, mais j'ai commencé à travailler à ALVF depuis 2017. Mon appréciation de la façon de collaborer avec Madame Doumara, c'est quelqu'un de très... Elle est à l'écoute et elle nous donne la possibilité d'être autonome dans le travail, c'est-à-dire qu'on apprend en faisant. Vous avez la possibilité de donner votre avis et de donner aussi d'innover. Donc si vous avez des idées et que vous proposez et que vous mettez en œuvre et que ça marche, elle encourage ça.
Moi c'est Iya, épouse Aboubakar. Je suis assistante sociale, formation. Je travaille ici à l'ALVF depuis 2007. Madame Doumara, c'est une dame de cœur. C'est une maman, une grande sœur. Sur le plan professionnel, elle collabore très bien. Nous ne sommes pas frustrés. Même s'il s'agit de faire des reproches, la manière dont elle fait souvent des reproches n'est pas souvent brutale. Oui, elle t'explique, elle t'amène à comprendre peut-être les erreurs que tu as eu à faire. Donc la collaboration est très bonne.
Bon, mon nom c'est Ngopepka Émilie Karine. Je suis responsable du projet d'encadrement des jeunes et des structures communautaires en matière de protection de l'enfant. Madame Mat Wandou est une dame qui œuvre beaucoup pour le travail bien fait. Donc c'est quelqu'un qui aime le travail bien et c'est quelqu'un qui valorise beaucoup le renforcement de capacités de personnel. Mais également, c'est quelqu'un qui est tellement méthodique et comme je l'expliquais au début, pour dire qu'elle aime un travail qui est bien fait, elle nous amène à pouvoir réaliser les activités en fonction des planifications et de bien mettre un point sur la capitalisation des résultats. Et à chaque fois, c'est quelqu'un qui oriente, c'est quelqu'un qui partage, parce que quand on a des difficultés dans la réalisation, c'est quelqu'un qui nous accompagne. Donc c'est un accompagnement de façon perpétuelle.
Moi, c'est Yacoubou Blaise Ali. À le départ, je suis chargé du projet protection des enfants en situation d'urgence, justement. Il faut dire sans hésiter que Madame Mat Wandou, c'est une femme hyper travailleuse. Elle est très modeste quand on l'écoute, mais c'est une bosseuse hors norme. Il faut dire qu'elle s'oublie parfois. Elle oublie parfois qu'elle est un être humain. Elle a aussi une vie pour se consacrer au travail.
À présent, nous prenons notre troisième et dernière femme battante. À 25 ans, elle est une jeune femme étudiante, entreprenante et très active dans la vie associative. À son jeune âge, elle est déjà un modèle à suivre. Malgré l'opposition de ses parents pour son envoi à l'école républicaine, elle réussit à aller de l'avant et à se bâtir son avenir. Elle est la présidente et fondatrice de OPAF, Organisation pour la promotion et l'autonomisation de la femme et de la fille. Son nom, c'est Assiato Hamadou. Écoutons son histoire.
Je suis Assiato Hamadou, étudiante à l'Université de Maroua, plus précisément à la Faculté des sciences économiques et de gestion. Dès le parcours du lycée, j'ai été membre de plusieurs associations. Dans mon lycée, j'ai été également présidente du club informatique, j'ai été dans le club espagnol, j'ai été dans les équipes sportives également parce que le sport m'a toujours intéressé. J'ai joué au handball, j'ai joué au football. Je me rappelle très bien la FENASCO 2016, nous avons joué et nous avons même remporté la finale de la coupe départementale. Mais j'ai rencontré vraiment beaucoup de difficultés parce que quand tu es une fille, surtout chez les nordistes, on dit que bon, une fille, tu peux jouer au football, on va dire non, ça c'est des choses des garçons, il faut laisser. Et pourtant moi, depuis mon enfance, le football m'a toujours passionnée. Aujourd'hui, j'ai des camarades qui sont à l'équipe nationale du football camerounaise. Mais malheureusement, moi, j'ai arrêté parce que mes parents n'étaient pas d'accord avec ce sport-là. Donc, même quand il fallait souvent faire des réunions, des clubs, des associations, je le faisais en cachette quand je finis le cours, au lieu de rentrer à la maison. Je m'avais directement fait mes réunions avant de repartir à la maison. Mais sinon, j'ai toujours quand même persévéré. Jusqu'à ce que j'ai fini mon lycée, j'ai obtenu mon bac en 2016 au lycée de Ngousso-Koulmekong à Yaoundé. Et après, je suis directement allée m'inscrire à l'université. Ce qui m'a donc permis d'être en contact avec tous les anciens, avec des camarades. Et ça m'a permis d'avoir une certaine visibilité. J'ai donc pu me familiariser avec un maximum de jeunes, ce qui m'a poussé davantage à implanter des associations ou des projets des jeunes dans la ville de Maroua. Le premier projet que j'ai implanté est le programme FIPA, qui est le fonds des projets jeunes en Afrique, qui permet aux jeunes de pouvoir se former sur l'entrepreneuriat, de pouvoir lancer eux-mêmes leur propre entreprise, de pouvoir avoir des financements. Donc ce programme aide un maximum de jeunes, parce que l'année dernière, nous avons eu à former 150 jeunes, et parmi eux aujourd'hui, plusieurs ont lancé leur entreprise et sont de ce fait autonomes. Après ce projet, j'ai également planté le programme La Roue, qui est une web télévision qui permet aux jeunes entrepreneurs qui ne sont pas connus de vulgariser leurs activités à travers le monde, pas seulement en Afrique, pas seulement au Cameroun, mais à travers le monde entier. Nous avons remarqué qu'il y a des jeunes qui font l'entrepreneuriat, mais leur domaine est caché. Donc, pour vulgariser dans leur activité, ils peuvent aujourd'hui s'exprimer à travers La Roue. Il y a également l'association Jeunesse Unie pour le développement du Cameroun, où je suis également la coordonnatrice régionale de l'extrême nord. Cette association également permet de promouvoir la décentralisation en amenant les jeunes à postuler pour être des conseillers municipaux, des maires juniors de chaque ville et par conséquent contribuer au développement de leur localité. J'ai pu, à travers ces activités, j'ai donc gagné beaucoup d'expérience, ce qui m'a donc permis de créer mon association à moi-même, que j'ai appelée OPAF, Organisation pour la promotion et l'autonomisation de la femme et de la jeune fille. Ce qui m'a poussé à créer d'abord cette association, c'est parce que je me suis rendu compte que dans la région de l'extrême nord, et plus précisément à Maroua, chaque fois que j'assiste à des séminaires, des formations, des conférences, des activités en fait socio-culturelles et professionnelles, je trouve un nombre de femmes très très limité. Je me suis posé plusieurs questions. Pourquoi est-ce que les filles et les femmes de cette ville de Maroua ne participent pas aux activités? Pour avoir des réponses à cette question, je me suis donc dit qu'il est nécessaire de créer cette association pour sensibiliser le maximum de filles et de leur parler du bienfait de leur autonomisation en créant des entreprises et en faisant des femmes entrepreneurs. Nous avons plusieurs objectifs dans cette association, parmi lesquels donc la réinsertion socio-économique et professionnelle de femmes, des filles non scolarisées. Nous avons également l'autonomisation de la femme. On a mis un accent sur l'autonomie de la femme avec l'économie numérique, parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs femmes qui peuvent faire des commerces en ligne et autres. L'Organisation pour la promotion et l'autonomisation de la femme et de la fille reste donc ouverte pour toutes les filles et les femmes qui veulent vraiment entrer dans la vie active, dans la vie associative et la vie entrepreneuriale. Tout ce que j'ai eu à faire et ce que je continue à faire jusqu'à présent, ce qui a été une difficulté majeure pour moi, c'est le fait même d'abord d'être femme. Parce que le fait que je suis une femme, c'est d'abord une difficulté pour moi. Moi, j'ai toujours dit que si j'étais un homme, je ne devais pas être à ce niveau aujourd'hui. J'ai eu, par la preuve en est que quand j'ai fini mon bac en 2016, j'ai obtenu mon bac et directement j'ai eu la bourse pour aller étudier en Turquie. Mais maman m'a dit, tu es une femme, tu n'es pas encore mariée, tu ne peux pas te déplacer, tu vas rester près de moi. J'ai donc par conséquent laissé cette bourse passer. Quand je suis allée plus loin, pas plus tard que la semaine passée, j'ai eu à postuler en ligne pour une entreprise, pour une société étrangère, où après quelques jours, on m'a rappelé pour me féliciter et me dire que j'étais retenue. Mais il était question que j'aille signer les papiers le 15 mars, le 15 de ce mois. Mais ma maman a catégoriquement refusé et voilà que cette opportunité est encore passée. Si c'était une autre personne à ma place, la personne devait même déjà tout abandonner et rester. Mais parfois, je me dis que si je suis arrivée à ce niveau, ce n'est pas le moment d'arrêter. Il est donc important pour moi de continuer, sinon les difficultés, elles sont énormes. Le fait que je suis quittée, j'ai laissé mes parents à Yaoundé, je suis venue à l'université de Maroua, ce n'est pas parce que j'ai voulu fuir les études de Yaoundé soi, ou bien parce que j'ai voulu chercher la facilité, non. C'est parce que, étant ici, au moins j'ai cette pression-là qui est un peu moins, qui est faible. Parce que quand je suis près d'eux, la pression, elle est très élevée. Chaque fois que tu dois faire quelque chose, on te met toujours, on te bloque. Mais ici, quand même, je suis un peu reculée. Il y a certaines choses que je peux faire sans avoir... sans être arrêté, tu vois. Donc, j'ai donc voulu être ici. Sinon, là où je suis à l'état actuel, je devais plutôt arrêter les études. Depuis le bac, on m'a demandé d'arrêter, mais j'ai insisté jusqu'à aller à l'université. Quand je suis arrivée à l'université, quand je venais à ma maman m'a dit, dès que tu finis la licence, tu reviens, tu restes. J'ai dit, ok. Mais quand j'ai fini avec la licence, j'ai dit que moi, je ne veux pas rentrer, je veux continuer les études. Et on m'a donc dit, si tu veux continuer les études, nous, on n'est plus avec toi. C'est là où j'ai donc... C'est même à partir de ce moment-là que j'ai commencé à me battre avec toute ma force et toute l'énergie pour pouvoir chercher à gagner quelque chose. Il faut juste persévérer dans tout ce que nous faisons. Les débuts ne sont jamais faciles. Donc, les débuts sont difficiles et au fil du temps, tout va être facile, tout va s'arranger.
Chers auditeurs, c'était tout pour les Success Stories de cette édition. La discrimination basée sur le genre est une grande menace pour l'épanouissement de la femme dans la zone septentrionale. Le monde évolue et pour aller plus loin, on a besoin de femmes capables et optimistes. Aujourd'hui, le statut de femme travailleur cause aussi beaucoup de problèmes, car certaines pensent que si une femme travaille, elle n'a pas le temps pour fonder une famille et de s'en occuper, et par conséquent, la femme doit seulement rester à la maison. D'autres nous diront qu'ils veulent que les femmes travaillent pour être autonomes. Nous avons promené notre micro dans la ville de Marois. Écoutons cet divers avis concernant les femmes leaders et travailleuses.
Moi, j'encourage aux femmes d'être leaders pour subvenir à leurs besoins. Pas qu'on dit souvent la place de la femme, c'est à la cuisine. Non, moi, je contredis cette idée. Puisque nous tous, on est des humains, non. On est censé être leaders.
Pour moi, une femme ne doit pas travailler. Parce que une femme travailleuse va respecter son mari. Parce que une femme travailleuse... Qui a ses droits, qui a l'autonomie sur l'homme, elle va se dire à un moment, elle va se mesurer à son mari. Et c'est là, c'est un point où que ça devient un dysfonctionnement pour le mariage. Et là, n'est pas bien pour sa famille.
De nos jours, avec des mariages bizarres que les gens rencontrent, pourquoi donc pas laisser l'opportunité à ce que les femmes aussi s'expriment dans la vie société. Tout comme on laisse des opportunités aux hommes également de s'exprimer. Par contre, quand une femme travaille, ce n'est pas pour elle seulement qu'elle travaille. Quand elle travaille, c'est pour subvenir aux besoins de la famille, de la société.
La place de la femme n'est pas uniquement au foyer. Elle peut aussi occuper des postes, peu importe.
Kanam jabata de bohu angam ta de bohu wa ya wa redude ya wa redude respecta ta gorko wa da ta dime surtout au buri gorko man moye.
Chacun a sa petite idée. Il serait difficile d'apporter un jugement sur les opinions des uns et des autres. Tout ce qu'on peut demander aux parents, c'est de laisser leur fille aller à l'école, leur permettre de travailler pour pouvoir être des bonnes femmes au foyer. À l'époque, on nous dira que la place de la femme, c'est à la cuisine. Mais aujourd'hui, le monde veut voir la femme au-delà de ce statut. Radio Rosaire est allée à la rencontre d'une maman moderne qui a connu la transition de l'époque où la femme était seulement femme au foyer et celle où la femme est appelée à avoir les mêmes opportunités que l'homme dans la société. Elle, c'est Gale Fanta. Elle est notre expert du jour. Écoutons ses conseils.
Je remercie d'abord Radio OCR de m'avoir donné l'opportunité. Moi particulièrement, je suis de la génération des années 80. En ce temps-là, les filles étaient mélangées aux garçons, s'il faut parler comme les Ivoiriens. On était tous ensemble, arrivés au cours moyen 1. Là, vous voyez comment certaines filles disparaissent. On vous dit qu'elles sont parties en mariage. Au cours moyen 2, le nombre diminue encore. Bon, on présentait en même temps que les garçons les examens entrant en 6e et le CPE. Et on s'est retrouvés en nombre encore plus réduit en classe de 6e. 6e, 5e, vous voyez encore que le nombre de filles diminue. Ça veut dire que les parents ont jugé nécessaire de les amener en mariage. Et dans le temps, la fille et la maman, toutes deux étaient soumises. Donc le père venait tout simplement informer la maman de ce que notre fille doit aller en mariage. Si vous aviez deux ou trois prétendants, et c'est le père qui décide que bon, comme celui-là il vient de telle famille, c'est lui qui va te prendre en mariage. Bon, on espère qu'il va quand même bien t'entretenir. C'est comme ça que ça se passait. Même si le parent était conscient qu'il fallait que l'enfant fréquente, il y avait aussi la pression de l'entourage. L'entourage était là pour intoxiquer les parents, surtout dans le milieu musulman. Dans la confession musulmane, il était dit que la fille, déjà puberte, quand elle voit ses premières règles, elle doit déjà partir en mariage, que c'est même un malheur qu'une fille fasse ses premières règles à la maison, des choses comme ça. Il y avait quand même certains parents qui étaient conscients de ce que la fille doit aussi fréquenter autant que le garçon. Moi, actuellement, je comprends très bien la nécessité de l'école, la contribution de la femme au développement. Parce que moi, j'ai contribué au développement de ma famille. Si mes enfants ont fréquenté, c'est grâce à moi aujourd'hui. Et ces femmes qui sont aujourd'hui au devant de la scène, c'est les femmes d'hier, là, les quelques rares filles d'hier, là, c'est elles, aujourd'hui, là, qui contribuent au développement de la société, de l'épanouissement de la fille. Il y a des filles maintenant qui suivent des formations, qui exercent des petits métiers grâce aux ONG pilotées par des femmes. Et vous voyez à quel point la femme peut être aussi efficace que l'homme. Donc, je vois beaucoup de femmes aujourd'hui coordinatrices des associations et qui contribuent, qui recensent les filles qui ne font pas l'école et qui essayent de les réinsérer dans la vie active. Les filles qui étaient au point d'échouer, qui ont subi des traumatismes, mais avec ces ONG-là, actuellement, elles font quelque chose de bien. Elles sont autonomes, s'il faut le dire. Donc, je crois qu'avec le temps, les parents ont compris que la fille doit aussi aller à l'école et soit éduquée le plus loin possible et contribuer au développement de la société. Donc, c'est ce que j'ai à dire.
Mesdames, Messieurs, vous l'avez suivi, aujourd'hui la femme est appelée à être leader, travailleuse et battante contrairement à l'ancienne époque. La femme n'a pas que le service de procréation à offrir comme beaucoup le pensent. Sa capacité intellectuelle peut être un grand atout au développement de la société. Une femme peut travailler et être une bonne épouse pour son mari. On dit souvent que éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Et c'est ici que nous mettons fin à notre édition de « À chaque femme son histoire ». La partie technique était assurée par Marcino, la supervision générale de David Bayan Et pour la présentation, je suis Noura Abdou. Restez scotché sur Radio Rosséré et à la prochaine.